Les obligations réelles environnementales. Déjà, ça commence mal parce que c'est un intitulé qui n'est pas très sexy. Et on ne sait pas très bien qu'est-ce que ça veut dire. Mais bon, c'est le langage juridique qui est souvent un peu ésotérique. Alors, moi, j'apparais ici au titre du Centre international de droit comparé de l'environnement, qui est une ONG internationale qui fait du lobbying au niveau international, c'est-à-dire à l'ONU, dans les conférences internationales, dans les COP, dans les conférences des partis, bref, pour influencer les États, les ONG, pour que la rédaction des textes qui sont issus de ces réunions internationales soit relativement satisfaisante et adaptée à nos objectifs, qui est la protection et l'amélioration de l'environnement. Et donc voir comment le droit permet de satisfaire à ces objectifs d'amélioration et de protection de l'environnement. Et l'outil juridique que je vais vous présenter, les ORE, les obligations réelles environnementales, il se trouve que, comme on l'évoquera dans un instant, ça a une origine à l'étranger, en droit comparé, dans les pays anglo-saxons, qui ont, bien avant la France, inventé ce type de mécanisme qui permet à un propriétaire d'un espace naturel de protéger l'environnement chez lui avec certaines garanties de pérennité dans la durée. Parce que la protection de l'environnement à court terme ou à courte durée, bon, je ne dirais pas que c'est facile, mais chacun peut protéger aujourd'hui l'environnement chez lui. Mais qu'est-ce qui va en être demain ? Et donc, la nature, les forêts, surtout les forêts qui ont une durée de vie particulièrement longue, la nature et les forêts ont besoin de durée et que les protections, les aménagements, les restaurations subsistent au-delà de notre génération. Et donc, il s'agissait d'inventer un mécanisme juridique qui permette d'assurer la durée de la protection des forêts, la durée de la protection de la biodiversité, la durée de la protection de l'environnement, et donc qui puisse aller au-delà de notre propre génération. Voilà l'idée générale. Et à partir de là, évidemment, comme ça touche à la gestion et au droit de la propriété, ça devient très compliqué et on rentre dans des systèmes juridiques particuliers où la sacro-sainte propriété est surtout aménagée et organisée au profit du propriétaire. Le droit du propriétaire d'user, d'abuser même, dit le Code civil, ce qui pour l'environnement est un peu problématique, d'user et d'abuser, de faire fructifier sa propriété, c'est là la définition de la propriété dans le Code civil. Mais c'est pour le propriétaire, c'est pas pour la propriété. C'est le propriétaire qui a ses droits. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de protéger le propriétaire ou de donner des droits au propriétaire, c'est de protéger la propriété, c'est-à-dire le fond, la nature, le foncier. Et donc, ce mécanisme juridique va organiser de façon assez complexe la façon dont on peut protéger la propriété, c'est-à-dire le fonds, l'immobilier, sur la durée, au-delà de la vie de l'actuel propriétaire, avec un système de protection qui va s'imposer non seulement à lui, qui va s'auto-imposer, parce que c'est lui qui va décider exactement ce qu'il veut faire ou ce qu'il ne veut pas faire, mais qui va aussi s'imposer aux propriétaires suivants, à ses héritiers ou à ceux qui vont acheter sa propriété une fois qu'il sera mort. Alors, obligation, c'est un terme juridique, il faut faire quelque chose. Alors, c'est en réalité obligation de faire ou obligation de ne pas faire, parce qu'en matière d'environnement, parfois, il faut mieux rien faire. On protège mieux l'environnement en ne faisant rien. Donc, c'est une obligation de ne pas faire qui est prévue. Donc, faire des choses ou imposer des choses ou bien ne pas faire. Réel, c'est le terme juridique qui exprime que c'est pas personnel, c'est réel, c'est-à-dire que ça s'impose à la terre, au fond, et non pas à la personne. Et environnemental, c'est l'objet, protéger, restaurer, améliorer l'environnement. Alors, c'est une innovation juridique, et c'est récent. Ça date de 2016, la loi sur la biodiversité et les paysages. Et dans cette loi de 2016, on a réussi, je dis parce que c'est un combat collectif de la part d'un certain nombre de juristes de l'environnement, un combat qu'on mène depuis à peu près une trentaine d'années, parce qu'on a commencé en 90 à dire qu'il faudrait avoir un mécanisme qui protège sur la durée l'environnement par les propriétaires. Et à chaque fois, on se heurtait à un mur, une opposition du ministère de l'Agriculture, parce qu'il disait « Oh là là, non, non, parce que qu'est-ce que ces histoires, encore ces écolos qui vont imposer des choses sur la terre ?» Et puis le ministère de la Justice qui disait « Oh là là, non, non, parce que ça n'existe pas, on n'a jamais, on ne connaît pas ça en France. C'est contraire au droit de propriété français. Mais ça existe, par contre, dans les pays anglo-saxons. » Mais le ministère de la Justice, il dit « Non, non, il ne faut pas copier sur les autres. Hein, on est franco-français, on fait que ce qu'on a toujours fait. » Et donc, il y avait vent debout des oppositions du ministère de l'Agriculture et du ministère de la Justice, et derrière eux, tous les groupes de pression qui peuvent les influencer. Et c'est un peu par miracle et à force de persévérance, comme quoi en matière d'environnement, il faut toujours persévérer, eh bien que le gouvernement de 2016 a permis qu'on insère un article dans la loi qui institue ces obligations réelles environnementales. Et donc, qui consiste, si on résume ce que j'ai présenté en donnant les mots de l'outil, protéger volontairement l'environnement dans une propriété privée. Et j'allais dire protéger dans la durée. Protéger dans la durée volontairement, parce que c'est un acte volontaire, ce n'est pas imposé par l'État ni par personne. Protéger volontairement dans la durée l'environnement d'une propriété privée. Et donc, c'est la garantie de la durabilité. Et ça rend les propriétaires, en quelque sorte, les porteurs de l'intérêt général environnemental. Parce qu'en protégeant l'environnement chez soi, on protège aussi l'environnement sur la planète et ailleurs et partout. Et donc, au lieu d'avoir un intérêt privé, exclusif, à court terme, en protégeant l'environnement chez soi, on protège l'environnement pour les autres aussi. Pour la communauté humaine et environnementale. Et ça se fait à travers un outil juridique qui est un contrat. Et on va voir comment est fabriqué ce contrat. Un contrat qui, par conséquent, répond aux exigences de la garantie contractuelle, de la liberté des volontés. Dans un contrat, on peut mettre ce qu'on veut, sauf si c'est contraire à l'ordre public. Mais on peut mettre ce qu'on veut. Et donc là, on va pouvoir mettre ce qu'on veut en matière d'environnement. Et finalement, cet outil, il ne fait que mettre en musique un grand principe qui est dans la Constitution et dans la Charte de l'environnement qui figure dans le préambule de la Constitution. C'est l'article 2 de la Charte qui dit « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. » Donc, on est tous obligés de protéger l'environnement. C'est une obligation juridique constitutionnelle. Et l'obligation réelle environnementale est un outil à notre disposition pour répondre à ce devoir que nous avons de protéger l'environnement. Alors j'ai dit que c'était une institution qui venait de l'étranger, et spécialement du droit anglo-saxon, et notamment des États-Unis, où ils ont ça déjà depuis 1960. Ça s'appelle Conservation Easement, les servitudes de conservation. Et alors j'ai des chiffres qui ne sont pas tout à fait à jour, parce que moi-même je ne suis pas à jour. Il y aurait plus de 140 000 de ces contrats déjà aux États-Unis. Donc des propriétaires privés, notamment j'ai un ami au nord des États-Unis qui a une forêt de je ne sais pas combien, 150 hectares, qui est plus vieux que moi, donc qui va mourir, ça c'est sûr. Et il veut protéger sa forêt. Et par conséquent, il a signé avec une association d'environnement locale, américaine, un conservation easement, qui est une servitude de conservation qui fait qu'il est sûr, même après sa mort, que sa forêt sera gérée de manière environnementale, de manière écologique, et qu'elle ne sera pas rasée du jour au lendemain. Et on avait travaillé avec mon centre de recherche à l'Université de Limoges. Depuis les années 90, on a fait un colloque et une recherche. Il y avait toute une recherche en droit comparé pour voir comment fonctionnaient ces mécanismes de servitude environnementale à l'étranger. Et avec Catherine Giraudel, on avait fait toute une étude et qui se terminait par une proposition pour la France de faire la même chose en France. Il a fallu attendre 2016. Alors, c'est quoi une ERE ? Alors, théoriquement, ça remplace ce qu'on appelait les réserves volontaires, mais qui n'ont pas bien marché et puis qui ont été supprimées de toute façon. Une ERE, c'est un contrat. Donc, un contrat, c'est entre deux personnes, le propriétaire d'un côté et de l'autre côté, le co-contractant. Alors, on va voir qui c'est le co-contractant. On va voir que c'est des garants, des entités, des personnes juridiques, la plupart du temps des associations d'environnement, mais ça peut être aussi des personnes publiques, qui vont être des garants, qui vont vous aider à protéger environnementalement votre propriété. Parce que tout seul, ce n'est pas facile. Il faut être conseillé, il faut être aidé, il faut être accompagné, il faut être protégé. Et donc, le garant va être, en quelque sorte, l'accompagnateur du propriétaire pour mettre en place ce système dans la durée. Alors, l'ORE, c'est un outil, pas un remède, bien entendu. Ce n'est pas ça qui va faire des miracles pour améliorer l'environnement. Ça va dépendre de ce qu'on va mettre dans le contrat. Qu'est-ce qu'on veut faire chez soi pour protéger l'environnement qu'on a. Et c'est donc dans l'article L123.3 du Code de l'environnement, qui est un tout petit article, parce qu'en général, il y a des articles qui font des pages entières, etc. Là, on a réussi à faire quelque chose de petit. Alors, il y en a qui disent, ah ben oui, mais on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ben, on a la liberté d'imaginer. Il y a la base dans l'article pour savoir ce qu'il faut faire. Et surtout, ce qui est très important pour la mise en œuvre de ce mécanisme, c'est qu'il ne renvoie pas à un décret d'application. Parce que sinon, on était sorti, on serait en 2022, il n'y aurait toujours pas de décret. Et donc, il n'y aurait toujours pas d'ORE. Non, l'ORE est applicable immédiatement, dès le vote de la loi. Alors, quelle est la finalité ? Pourquoi faire ce contrat ? Ce contrat, c'est pour... Alors, c'est très simple et très clair. Mais après, il faut développer, il faut qu'il y ait des scientifiques, des écologues qui nous disent en quoi ça consiste. Le maintien, la conservation, la gestion, la restauration. Alors, ça peut être l'un ou l'autre, ou les quatre en même temps. De quoi ? Des éléments de la biodiversité ou des fonctions écologiques. Donc voilà ce qu'il faut faire. Sur votre propriété, sur votre forêt, sur votre zone humide, sur votre pré, qu'est-ce que vous pouvez faire pour maintenir les éléments de la biodiversité ou les fonctions écologiques, ou pour les conserver, ou pour les gérer, ou pour les restaurer, ou pour tout, faire tout ça à la fois. Voilà l'objectif. Et donc, dans le contrat, il va falloir rédiger précisément qu'est-ce que vous allez faire pour atteindre cet objectif. Et l'ORE peut avoir une ou plusieurs de ces finalités. Ça peut être uniquement de la conservation ou uniquement du maintien. Bref, en réalité, il faut tout faire à la fois, parce que sinon, l'environnement, il est instable, hein, il évolue dans le temps. Et donc, aujourd'hui, il faut le maintenir, et puis il faut en même temps le gérer, et puis le conserver en même temps. Alors, le restaurer, c'est quand il a été dégradé. Mais il peut être dégradé, pas forcément par vous, peut-être par des phénomènes naturels, hein, qui aboutissent à une dégradation. S'il y a une grande tempête qui met à bas la moitié de votre forêt, bon, ben, il faut restaurer. Alors, où on peut faire ce contrat ? Partout en France. Ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de critères géographiques, il n'y a pas de critères scientifiques. Alors là, je voudrais insister sur cet élément qu'il n'y a pas de critères scientifiques. Jusqu'à présent, en France, comme dans tous les pays, la protection de la nature, elle est organisée entre les mains de l'État, qui met en place des mécanismes de protection, et notamment de protection des espaces remarquables, ou dans lesquels il y a une biodiversité exceptionnelle. Et c'est pour ça qu'on va faire des parcs nationaux, ou qu'on va faire des réserves naturelles, ou des arrêtés de biotopes. Donc il y a des mécanismes de protection étatiques, parcs nationaux, réserves naturelles, arrêtés de biotopes, mais qui sont décidés et imposés par l'État, mais qui ne touchent que des espaces naturels exceptionnels. Or, l'environnement, ce n'est pas que les espaces exceptionnels. Et puis d'ailleurs, l'État, il n'a pas protégé tous les espaces exceptionnels. Hein. Les espaces protégés, je crois qu'il y en a à peine 1% du territoire. Si on additionne les parcs, les réserves, etc., c'est même pas 1% du territoire. Donc il y a tout le reste du territoire qui mérite d'être aussi protégé ou restauré. Et donc l'intérêt fondamental de l'ORE, c'est de protéger ce qu'on appelle la nature ordinaire. Mais la nature ordinaire, il faut savoir que la nature ordinaire, elle est extraordinaire. Parce que dans la nature ordinaire, vous avez des tas de choses qui sont exceptionnelles, qui sont extraordinaires. Et par conséquent, il faut bien se mettre ça dans la tête, la nature ordinaire est extraordinaire. Et par conséquent, il faut la protéger, et l'ORE est là qui permet de la protéger. Donc partout en France, que ça soit un espace exceptionnel ou pas exceptionnel. Et quand on dit partout en France, ça veut dire que ce n'est pas uniquement en zone rurale, mais c'est aussi en zone urbaine. Parce qu'on sait qu'il y a de la nature en zone urbaine. Et donc, l'ORE, on peut l'appliquer aussi en milieu urbain. Hier, il y a des participants qui, à Niort, qui avaient des jardins partagés ou des zones urbaines qui sont naturalisées, si je puis dire, et qui se demandaient s'ils pouvaient faire une ORE en milieu urbain. Ben, bien sûr, il n'y a aucune limite. Ça peut être en milieu urbain, en milieu rural, du moment que c'est des éléments naturels à protéger, et des bois, un arbre, tout ce que vous voulez. Alors, durée du contrat. Il faut bien comprendre que l'obligation résultant de l'ORE, elle ne s'impose pas directement au propriétaire, alors c'est le propriétaire qui va la mettre en œuvre, mais elle porte sur le bien immobilier, sur la terre, sur le foncier. Hein. C'est des règles qui vont s'imposer à la gestion de la terre. Et donc, c'est pour ça que l'originalité de l'ORE, c'est que elle va avoir une durée librement fixée qui est au maximum de 99 ans, parce qu'on ne peut pas passer des contrats qui durent plus de 99 ans. Donc, vous pouvez faire une ORE de 99 ans, mais vous pouvez faire une ORE de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans. Vous choisissez la durée. Et le mécanisme d'obligation qui vont s'imposer du fait de ce contrat va s'imposer non seulement à vous, propriétaires d'aujourd'hui qui signez le contrat, mais ça va s'imposer à tous les propriétaires successifs, à vos descendants, à vos héritiers ou aux personnes qui vont acheter ce bien. Donc ça va s'imposer à tous les acquéreurs futurs pendant la durée du contrat. Si c'est un contrat de 30 ans, ça va s'imposer à tous les propriétaires pendant 30 ans. Puis après, ils verront ceux d'après s'ils veulent continuer, s'ils refont une ORE pour 10 ans ou pour 30 ans. Ça, c'est leur problème dans 30 ans. Mais jusqu'à la durée de 30 ans, tous les propriétaires successifs, donc quoi qu'il arrive, si c'est vendu, si c'est vos héritiers, vos petits-enfants, etc., pendant 30 ans, ils sont soumis à ces obligations. Et donc, l'obligation de mise en œuvre de l'ORE, elle s'impose pour le propriétaire d'aujourd'hui et ensuite pour toutes les personnes qui seront propriétaires ou qui jouiront du bien. C'est-à-dire, on peut être propriétaire et puis pas s'en occuper. Avoir un locataire, passer un bail. Hein. On parlait hier pour les forêts, ils ont inventé un bail forestier qui permet au propriétaire de confier à un tiers la gestion de sa forêt par un bail forestier. C'est un truc tout à fait nouveau qui n'existe pas encore, qui est expérimenté par les militants forestiers. Et donc, si vous avez une forêt, vous pouvez passer un bail forestier avec un tiers qui va gérer la forêt pendant 30 ans, s'il a un bail de 30 ans. Donc, c'est un contrat. Il faut donc être au moins deux pour signer un contrat. On est libre de signer le contrat ou pas de signer le contrat. Hein, l'État ne vous impose rien. C'est la liberté de gérer l'environnement. Et c'est un accord de volonté. Il faut donc que tout le monde soit d'accord. Et donc, on va négocier ce contrat. Ce n'est pas perpétuel. C'est au maximum 99 ans. Et il faut respecter, évidemment, les règles d'ordre public. On ne peut pas dire faire n'importe quoi et dire qu'on va pouvoir violer les droits fondamentaux et faire n'importe quoi sur sa propriété. Il faut respecter, évidemment, les règles générales qui s'imposent à tout le monde, les libertés fondamentales et les règles d'ordre public. Et le contrat, comme dans tout contrat de droit privé, c'est un contrat de droit privé, c'est la loi des parties. Donc, elle pèse sur l'immeuble et elle s'impose donc aux propriétaires successifs. Elle pèse sur l'immeuble et s'impose aux propriétaires successifs. Alors, les propriétaires, c'est qui? C'est aussi bien des propriétaires privés que des propriétaires publics. Et c'est pour ça que, notamment, l'ORE est surtout, pour l'instant, utilisée par des communes spécialement sensibles aux questions d'environnement. Et donc, des propriétaires publics, l'État, les communes, les départements, les régions, peuvent très bien signer une ORE pour protéger leur propriété, c'est-à-dire le domaine de la commune, le domaine de la région, le domaine du département. Et, comme je disais, il y a pas mal de communes, notamment en Alsace, parce qu'en Alsace, ils sont un peu plus sensibilisés à l'environnement qu'ailleurs, et avec le Conservatoire naturel des espaces naturels alsaciens, qui est très dynamique. Et donc, ils ont passé les ORE entre communes et conservatoires d'espaces naturels pour gérer et protéger des terrains communaux, des zones humides ou des forêts communales. Et ils ont passé des ORE de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, de je ne sais pas quoi, je sais pas combien, mais il y en a plusieurs déjà avec des communes. Donc, ça peut s'adresser à des personnes publiques. Mais ça peut s'adresser aussi, et c'est là que je lance un appel aux propriétaires privés, parce que pour l'instant, il y a très peu de propriétaires privés qui font ça, parce qu'ils ne savent pas ou parce qu'ils ont peur. Et donc, les propriétaires privés peuvent aussi décider de faire une ORE chez eux. Hein, nous, avec Bernadette, on a une propriété privée rurale en Limousin, on veut faire une ORE, parce qu'on va mourir bientôt, et on voudrait que notre terrain continue à être géré de façon écologiquement satisfaisante. Alors, on a des enfants, des petits-enfants, mais on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, et donc on voudrait bien que ça continue, une gestion écologique. Bien, la seule solution, c'est l'ORE. Alors, le co-contractant, hein, le propriétaire, c'est une des parties, l'autre, c'est le co-contractant, le garant, celui qui va être chargé de vous accompagner pour protéger votre propriété de façon écologique. Alors, qui c'est le co-contractant? Ce n'est pas des personnes physiques, ça ne peut être que des personnes morales. Et il y a une liste. Ça peut être une collectivité publique. Donc un propriétaire privé peut passer un contrat avec une commune et c'est la commune qui va vous accompagner, qui sera le garant. Ou ça peut être un établissement public qui a une finalité et une activité environnementale, on va voir, je crois, sur la diapo après, ou une personne morale de droit privé. Alors, les établissements publics qui peuvent être garants de l'ORE, c'est ceux qui sont compétents en matière d'environnement. Alors, vous voyez, il y en a un paquet, les agences de l'eau, les parcs nationaux. Hein, si vous êtes à côté d'un parc national, vous pouvez passer une ORE avec un parc national ou avec le conservatoire du littoral. Si vous êtes près du littoral, votre propriété, vous passez une ORE avec le conservatoire du littoral. Et sinon, si vous êtes près d'une agence de l'eau ou d'une rivière ou pas près du littoral, vous pouvez passer une ORE avec l'Office français pour la biodiversité, qui est la nouvelle usine à gaz qui a été créée dans la loi de 2016, mais c'est une usine à gaz. Alors, il faut voir si on veut travailler avec une usine à gaz. Mais théoriquement, ils sont compétents, parce que c'est l'Office français pour la biodiversité. Donc, normalement et naturellement, c'est avec eux qu'il faudrait passer des ORE. Mais je ne sais même pas s'ils savent ce que c'est qu'une ORE. Hein ? Et puis l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, qui est très vieille, mais elle aussi, elle a autre chose à faire qu'à s'occuper des ORE, et je ne pense pas que ça les intéresse beaucoup. Et donc, parmi les établissements publics avec qui on peut passer une ORE, à mon avis, ceux qui sont les plus motivés, ça serait l'Office français pour la biodiversité, le conservatoire du littoral, les parcs nationaux et les agences de l'eau. Et il y a l'option de passer le contrat, non pas avec une personne publique, mais avec une personne privée. Alors, il y a trois catégories. Les associations de protection de l'environnement, nationales ou locales, peuvent être des partenaires. Alors, il y a France Nature Environnement, qui peut très bien, je ne sais pas si c'est dans son programme, décider d'être garant de la protection de l'environnement pour des propriétaires privés et passer une ORE entre FNE et un propriétaire privé. La deuxième catégorie, qui probablement sont ceux qui ont le plus vocation à faire ce travail, ce sont les conservatoires régionaux d'espaces naturels, les CREN. Les conservatoires régionaux d'espaces naturels existent depuis très longtemps. Il y en a dans toute la France et dans toutes les régions. Et ils existent sous forme d'associations de loi 1901. Mais en réalité, c'est des quasi-personnes publiques parce qu'ils ont une mission de service public véritablement. Et ils sont agréés d'ailleurs. Ils figurent dans le Code de l'environnement officiellement. Donc c'est des partenaires officiels de la politique de l'environnement. Et ils ont un plan d'action et une grande partie de leur activité, c'est de gérer des espaces privés en passant des baux. Hein, ils passent un contrat avec un propriétaire privé en dehors de l'ORE pour gérer des terrains privés. Donc ils ont déjà anticipé en quelque sorte l'ORE en passant des contrats privés avec des propriétaires. Mais là, on leur donne un instrument qui a une configuration juridique plus solide, parce que les contrats qui passaient, ils n'avaient aucune protection juridique. Là, le conservatoire régional qui va passer une ORE avec un propriétaire privé, il est dans un cadre juridique organisé, protégé et avec une finalité bien précise. Et donc, moi, je conseillerais beaucoup aux propriétaires privés qui veulent passer une ORE de prendre contact avec le conservatoire régional de leur région et voir s'ils sont d'accord à signer un contrat ORE. Et puis, il peut y avoir aussi, parce que c'est des organismes de droit privé, des bureaux d'études environnementaux qui peuvent être intéressés, mais je ne sais pas pourquoi et comment, mais tout est possible. Parce que c'est dans un système très, très libéral, très ouvert, hein, où on fait un peu à la carte ce qu'on veut. Alors, quelles sont les obligations du propriétaire ? Alors, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas d'ORE modèle. Alors peut-être d'ailleurs qu'il faudrait, pour inciter un peu plus les propriétaires à faire ça, qui sont un peu perdus en ne sachant pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ça serait peut-être bien d'inventer une ORE modèle, un contrat modèle. Peut-être que FNE pourrait réfléchir avec les conservatoires d'espaces naturels, là, qui ont une structure nationale, à réfléchir à écrire une OERE modèle, hein, avec des scientifiques qui diraient voilà le minimum à mettre pour protéger. Alors, évidemment, ça dépend si c'est une zone humide, si c'est une forêt, etc. Ça dépend du milieu naturel à protéger. Mais je pense qu'il faudrait, parce que ça aiderait les propriétaires qui sont un peu perdus en disant je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il n'y a pas de liste prédéfinie et il faut se faire conseiller, évidemment, par des spécialistes, des écologues, des naturalistes, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, dans l'ERE ? Qu'on s'engage à ne pas utiliser d'engrais, à ne pas utiliser de produits phytosanitaires, ou à utiliser que tel et tel produit. Hein, on fait ce qu'on veut. On peut dire, voilà, j'utilise que tel et tel produit, mais les autres, le glyphosate, j'utiliserai jamais pendant 30 ans.
Et pas de grosses machines.
Alors, pas de grosses machines. Alors, pas de tracteur de plus de 20 kilos, je ne sais pas quoi. Bon. Mon terrain doit être consacré à l'agriculture biologique. Hein. L'obligation, c'est d'implanter et d'entretenir une roselière. Bon, alors, comment on va faire, etc. Bref, tout ce qu'on veut. Hein. Il faut imaginer comment on peut protéger l'environnement. De tailler les arbres. Hier, on a eu une présentation très intéressante sur les forêts, sur la façon de tailler les arbres. Bon, ben, on peut dire, voilà, moi, je veux qu'on taille les arbres comme ça, tous les 10 ans, tous les 5 ans, de telle, avec telle et telle méthode, etc. Donc, on peut bien préciser la façon dont on va gérer cet espace. On peut dire, chez moi, la faune sauvage va circuler. On y reviendra à la fin à propos de la chasse. Alors, le co-contractant, c'est-à-dire soit le conservatoire, soit le conservatoire des espaces naturels, soit le conservatoire du littoral, soit un parc national, soit une commune, parce que je crois que les communes peuvent être très motivées à passer des ORE avec, non seulement pour leur propriété à elles communales, mais avec des propriétaires privés de la commune. Alors, le co-contractant, là aussi, il n'y a pas de liste de ce qu'il doit faire ou pas faire. Ça se négocie. Ce qu'il va faire ou pas faire, c'est de l'aide technique, de l'aide scientifique ou de l'aide financière. Donc, il est là pour vous conseiller, pour vous aider sur le plan technique ou scientifique, ou pour contribuer un peu financièrement à l'opération. Mais c'est tout ouvert à discuter. Alors, par exemple, il va s'engager à mettre en œuvre des opérations de restauration ou de gestion hydraulique, hein, de votre espace, etc. Donc, il va s'engager à faire certains travaux dans l'esprit de ce qui a été décidé dans les obligations de faire et de ne pas faire. Il va maintenir dans un état fonctionnel les équipements pastoraux. Il va entretenir par une fauche contrôlée, pâturage, etc. Bref, tout ce que vous voulez pour bien gérer votre environnement, la mission de le faire peut être confiée au partenaire, s'il est d'accord pour le faire. Ou bien, sinon, c'est vous qui le faites. Et lui, simplement, il vous donne des conseils. Ou bien, il fait effectivement les travaux. Ça, c'est à discuter. Tout est ouvert. Et puis, il peut se contenter de faire des inventaires. Vous lui dites, bon, vous me faites un inventaire de la biodiversité chez moi, et puis, vous avez l'obligation dans 5 ans de refaire un inventaire. Tous les 5 ans, vous refaites un inventaire pour voir l'évolution, parce que le milieu naturel évolue, pour voir l'évolution. Donc, l'obligation du partenaire, c'est de faire des inventaires ou de donner des conseils à la suite des inventaires. Et puis, dernière option de contribution du co-contractant, du garant, c'est de verser des euros. Et donc, c'est pour ça que je dis, il y a peut-être intérêt à avoir un co-contractant qui a un peu d'argent. Parce que si vous passez un contrat ORE avec une commune ou un département, et si vous dites, bon, pour entretenir mon milieu, j'ai besoin de 5000 euros par an, ils diront, bon, il n'y a pas de problème, on vous donne 15 000 euros. Et si vous passez le contrat avec une association locale d'environnement et que vous lui demandez 5 000 euros par an, il dira, non, nous, on ne peut pas donner 5 000 euros par an. Alors, il y a eu déjà des ORE passés avec des départements. Alors, j'ai un exemple dans le département de la Gironde. Le département de la Gironde a passé une ORE avec un propriétaire privé forestier pour une forêt. Et pourquoi le département ? Parce que les départements, justement, en matière d'environnement, ils ont déjà une compétence environnementale avec les espaces naturels sensibles. qui existe depuis je ne sais pas combien de temps. Et donc, il y a au département un bureau et des fonctionnaires qui sont payés pour s'occuper de l'environnement et des espaces naturels sensibles. Donc, si on va les voir en disant « on voudrait faire une ORE », ils ne tombent pas de leur chaise. Ils savent ce que c'est que l'environnement et ils ont déjà géré des espaces naturels sensibles. Et donc, ils sont prêts à négocier, à discuter. C'est comme ça que cette personne avec qui je suis entré en contact en Gironde a pu négocier avec le département qui lui offre un pont d'or hein, et qui va lui donner des moyens pour, pas à perpétuité, mais pour 20, 30 ans ou 40 ans, être sûr que sa forêt est gérée comme il l'entend et financée par le département de la Gironde. Donc c'est formidable. Hein. Donc ça, c'est important, l'aspect financier, de voir finalement, ça dépend ce que vous voulez faire et combien ça coûte à long terme, avec qui négocier pour avoir un co-contractant qui a des ressources. Alors les conservatoires ont des ressources, mais peut-être moins que le département, mais ça, ça dépend des endroits, etc. Alors, procédure de ce contrat. Donc il faut être deux, le propriétaire privé et un partenaire, mais il faut passer devant notaire. C'est un contrat, donc c'est un contrat qui doit être authentifié devant notaire. Et donc, il faut payer hein, les frais de notaire, parce que le notaire, il doit gagner sa compte comme les autres. Et donc, le contrat ORE, alors il n'y en a pas beaucoup, parce que malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de propriétaires qui osent franchir le pas. D'après mes renseignements, c'est environ 1 000-1 500 euros, hein, les frais de notaire pour passer l'ORE. Bon. Et ou bien le maire, parce que le maire a la fonction d'officier ministériel, donc il peut authentifier un contrat, mais le contrat avec le maire, passer devant le maire, c'est quand c'est un contrat où le co-contractant est la commune. Hein. Si vous contractez avec la commune, le maire va être l'officier ministériel et il fera signer par un adjoint. Mais là, bon, il n'y aura pas à payer des frais de notaire quand on fait le contrat avec une commune. Ensuite, ce contrat est inscrit au fichier immobilier officiel. Donc, il est opposable à tous, à votre voisin et à tout le monde. Donc, ça, c'est une garantie hein, par rapport au tiers. Et dans le contrat, il y a possibilité d'avoir clause de révision en disant on va réviser tous les 5 ans hein, pour s'adapter, etc. On n'est pas point et lié pendant 107 ans. Et il y a une clause de résiliation aussi. On peut dire, bon, finalement, ça ne marche pas. On n'est pas d'accord. On résilie le contrat. Donc, liberté de rédaction des clauses, parce que c'est un contrat. Il faut respecter les droits et libertés fondamentales. Il faut respecter l'équilibre du contrat. Et il faut évidemment respecter les finalités qui sont dans le code de l'environnement que je vous ai présenté. Mais il y en a 5 lignes, hein, donc ce n'est pas compliqué de comprendre. Simplement, il faut mettre en musique l'objectif de l'ORE. Alors, effet à l'égard des tiers. Alors, il y a le problème des baux ruraux. Hein, si sur votre propriété, il y a un bail rural, évidemment, ça peut être un obstacle. Il faut qu'il y ait l'accord préalable du preneur. Mais cet accord peut être tacite 2 mois après la notification. Donc, vous notifiez à votre preneur-bailleur que vous voulez faire une ORE en disant, voilà ce qu'il y a à faire et vous serez obligé de ne pas faucher de telle façon ou de ne pas exploiter de telle façon, de modifier un peu les pratiques culturales. Il est d'accord ou il n'est pas d'accord. S'il n'est pas d'accord, c'est foutu, il faut attendre la fin du bail rural. S'il est d'accord, c'est bon, et vous pouvez signer l'ORE. Alors, on ne peut pas remettre en cause les droits relatifs à l'exercice de la chasse. Alors là, ça a été une grande bagarre entre les écologistes et les chasseurs, entre certains écologistes et certains chasseurs. Et ça a beaucoup freiné l'adoption de la loi parce que les chasseurs étaient terrorisés à l'idée que si dans toute la France, il y avait des ORE, ils ne pourraient plus chasser. Alors non, c'est un mythe total de la part des fanatiques chasseurs. Les ORE n'empêchent pas la chasse. Simplement, les droits de chasse existants au moment de la signature continuent. Alors ça dépend déjà sur votre propriété, si on peut déjà chasser ou si on ne peut plus chasser. Ça dépend ce qu'il y a, si vous êtes dans une ACA ou si vous êtes dans une réserve de chasse, dans une chasse privée ou dans une chasse où il y a objection de conscience. Vous avez décidé qu'on ne chasse pas chez vous. Et ça, on a le droit de le faire. Et donc, là, il n'y a aucun problème. Ça dépend où vous êtes par rapport au droit de la chasse tel qu'il existe, où vous êtes. S'il y a une réserve cynégétique, évidemment, déjà, on ne peut pas chasser et on ne touche pas à la réserve cynégétique. Régime fiscal du contrat. Il est exonéré des droits d'enregistrement. C'est déjà ça. Et les communes peuvent décider, depuis 2017, mais je ne crois pas qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait, les communes peuvent décider de dispenser de la taxe foncière. Ce qui est pas mal si on a... Il y a des taxes foncières qui sont lourdes. Hein. Et donc, là, il faut négocier avec les communes. Il faut dire aux communes, bon, bah, écoutez, vous êtes écologistes, hein, et bien, commencez par adopter une résolution, un vote du conseil municipal qui décide de dispenser de taxes foncières toutes les ORE de la commune. Et vous ferez une œuvre utile pour l'environnement. Donc, il faut inciter les communes à dispenser de taxes foncières les ORE, en leur montrant l'intérêt général qu'il y a à dispenser de taxes foncières les ORE. Puis après, il faut sensibiliser les habitants de la commune pour qu'ils fassent des ORE. Hein ? Moi, mon rêve, j'ai un rêve, c'est qu'il y ait 10% des propriétaires en France qui aient une ORE. 10%. Ça ferait, je ne sais pas quelle surface, ça serait extraordinaire. Hein. On protégeait l'environnement partout en France. Alors, mise en œuvre, tout de suite, mais ça existe depuis 2016, on est en 2022, il n'y a pas beaucoup d'ORE. Le ministère a sorti en 2018 un guide d'usage, une espèce de vade-mecum, qui est sur le site du ministère de l'Environnement. Alors hier, il y a une dame qui m'a dit « mais on n'y comprend rien ». Bon, alors peut-être. Donc il faut réécrire le guide si on n'y comprend rien. Il y a eu un rapport au Parlement qui était prévu en 2018, mais finalement le gouvernement ne l'a pas fait parce qu'il y avait tellement peu d'ORE qui ne savaient pas quoi mettre dans le rapport. Et donc le rapport est seulement sorti en janvier 2021, qui est sur le site du Parlement et du gouvernement, et qui fait le point des ORE en 2021, en disant ben, « c'est bien, mais il n'y a personne ». Et comme je l'ai dit, les premiers contrats ont été passés en 2018-2019, surtout avec des communes, et surtout avec des conservatoires, et surtout pour des zones humides. Et voilà, j'ai fini. Merci.